RCF.
Un an d'aventure familiale à vélo, seconde partie. Partie de Montpellier le lendemain du 15 août 2015, Antoine et Géraldine ainsi que leurs trois enfants ont fait le tour du monde à vélo en un peu plus de un an, traversant 25 pays en parcourant 12 600 km à vélo. De retour, depuis fin août 2016, ils nous font partager leur témoignage de cette aventure hors du commun. Nous poursuivrons ce témoignage depuis la semaine passée, après avoir parlé du trajet effectué. Eh bien, ils nous avaient dit qu'ils avaient le temps de prendre du temps. Du temps, pourquoi faire ? La réponse avec Antoine et Géraldine.
Le matin, on n'est pas pressé pour partir sur les vélos. Donc, quand on se réveille, on peut aller se faire une petite séance de yoga devant la Baltique. C'est plutôt sympa. On a aussi le temps de profiter sans rien faire.
Et puis on avait le temps de lire aussi. C'était voilà. On a eu l'occasion de l'évoquer sur le blog, mais pour nous c'était un bon indicateur la lecture, parce que quand on avait le temps de lire, ça voulait dire qu'a priori on était suffisamment sur un rythme suffisamment lent pour profiter et se laisser des temps libres où on peut lire. Quand on n'avait plus le temps de lire, on se disait j'ai plus le temps de lire. C'est qu'on est en train d'enchaîner et d'aller un peu trop vite. Et voilà, c'était un indicateur pour nous.
On s'adapte, une fois de plus, aux conditions météo. On s'est pas amusé à aller pédaler en plein cagnard, notamment au Cambodge ou en Thaïlande ou au Laos. C'est-à-dire que la pause méridienne s'était beaucoup allongée et donc on s'arrêtait aux alentours de midi et demi, 13h et on ne reprenait qu'à 15-16h le soir, une fois que les grosses chaleurs étaient passées.
On a essayé de s'adapter au maximum avec les conditions climatiques, avec la nature. Ça c'est à Saint-Pétersbourg,
on était à la
période des nuits blanches, qui sont en fait des nuits pas complètement blanches, c'est parfois un peu rose, donc il y avait très peu de temps de nuit, donc ça aussi pour nous c'était nouveau, donc il a fallu qu'on s'adapte aussi avec ça, on démarrait les journées plus tôt, on se reposait un peu au milieu de la journée, on avait des soirées plus longues. Le fait d'avoir du temps, donc ça permet, comme on l'a vu, ça permet de s'adapter à ce qu'on rencontre, et puis surtout ça permet d'avoir le temps de rencontrer. Et voilà, en étant en vélo, on roule doucement et il n'y a pas de barrière, c'est pas comme une voiture où on est enfermé derrière les portières, et donc on est super accessible aux autres. Et voilà, ce mode de voyage lent et relativement modeste en fait en termes d'approche, ça permettait de favoriser les rencontres. Là, Joseph s'était fait des copains sur le bord de la route, donc ils nous ont accompagnés sur le chemin du retour de l'école.
Une des questions qui revenait assez souvent, c'est si les enfants qui étaient avec nous, c'était bien mes enfants. Donc là, je pense que je suis en train de leur dire que oui, j'ai bien trois enfants. Elles avaient toujours des questions, elles nous avaient arrêtées. C'était des petites rencontres de bord de route qui sont vraiment très chouettes.
Le sud de la Chine, c'est... Nous, on a été émerveillés. Les gens sont... hyper enthousiaste, très joyeux, hyper joueur, et on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir à voyager dans cette zone-là.
Ça, c'est des rencontres où il faut laisser de la place à l'imprévu. On était donc là au Kosovo, dans une famille qui nous a accueillis les bras très, très grands, ouverts. On n'avait jamais vu ça. On était à peine arrivés devant leur maison qu'on était déjà à l'intérieur en train de boire le café, alors qu'on nous prenait très, très peu finalement. Et ils ont absolument tenu... Alors, ils ont fait venir toute la famille, donc les garçons de la famille étaient là. Et ils nous ont demandé de ne pas partir tant qu'on n'était pas allé visiter avec eux la ville, une des belles villes qui était juste à côté de chez eux. Donc, on n'avait pas le droit de partir tant qu'on ne faisait pas cette visite avec eux. Et on l'a fait avec plaisir, bien entendu. Donc, du coup, on est resté une journée de plus juste pour profiter de ce moment-là avec eux.
Nous, ce qu'on a vraiment découvert à travers toutes ces rencontres, et encore une fois, on aura l'occasion de voir encore plein d'autres rencontres, c'est qu'on a découvert un monde hyper généreux, hyper accueillant. C'est à des années-lumière de ce qu'on nous donne à voir dans les médias. À chaque fois qu'on voit un abruti qui fait la une des journaux, il y a 10, 100 millions de personnes qui ont la banane, le sourire, parfois même qui ont le sourire mais qui le savent pas, mais qui vont le redécouvrir. Et voilà, nous, on a vraiment vécu un monde rempli de bienveillance et de générosité avec beaucoup d'accueil. On s'est toujours senti en sécurité, partout, vraiment partout.
En France, en Italie, en Albanie, en Macédoine. Donc là, c'était sur cette même famille, en Macédoine, qui, elle, nous avait offert des bonnets pour les enfants, pas qu'ils aient froid. C'était une très, très bonne idée. En Turquie, donc chez ces gens, ils nous avaient libérés, enfin, ils nous ont carrément hébergés dans une petite maison qu'ils avaient, qui ne leur servait pas à ce moment-là. En Thaïlande, ce monsieur nous a offert des cocos toutes fraîches de son jardin, et où on a dormi avec les coqs de combat, juste à côté. Ça, c'était une mauvaise idée.
Ça fait beaucoup plus de bruit que les éoliennes. Je sais, j'ai ma petite idée en tête. Mais...
Là, c'est dans un temple. On a eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller dormir dans des temples. Donc là, c'est avec un jeune moine qui nous a accueillis, installés, pris du temps pour nous. Là, c'est à Phnom Penh, pour un sourire d'enfant. On en a aussi longuement parlé dans notre blog. Voilà, ça a été une belle rencontre avec le directeur donc, du site.
En Turquie, on arrive dans un village un soir pour se poser. On trouve un endroit dans le village où il y avait une petite place avec de l'herbe. On se dit c'est parfait pour planter la tente. On avait essayé de demander l'accueil avant, mais on n'avait pas réussi. Enfin, on n'avait pas trouvé le bon feeling. On n'était pas très bon en turc non plus. Hein. Et finalement, on se pose sur cette place du village et on a à peine le temps de monter les arceaux de la tente qu'il y a quelqu'un qui vient et qui...
D'abord des haricots, après des grenades et après on nous dit que...
Les fruits, les grenades.
Les grenades, oui, les fruits. Et après... il nous dit qu'il a une maison en construction et qu'on peut dormir dans sa maison. Et après, sa femme nous rapporte le petit-déj.
Ouais, et avant, il a fallu qu'on démonte la tente pour aller dans cette maison quand même. On n'avait pas le droit de...
Ah oui,
ah, oui, on a démonté la tente.
Ouais. C'était obligatoire. Mais c'était encore un accueil absolument fantastique. On n'a rien compris de ce monsieur, plus que qu'il était sympa, qu'il avait envie de nous aider. Et lui, il a compris qu'a priori, on n'avait pas l'air d'être trop méchant. Et qu'on serait pas contre avoir un lieu un peu en dur pour dormir. Et donc voilà, on s'est salué, on a pris quelques photos.
Il y a un moment amusant parce que les Chinois nous ont donné de l'argent. Donc là, on voit Inès qui tient un billet dans sa main. C'est les deux jeunes filles là, qui lui ont donné de l'argent. En fait, Antoine essayait de s'évertuer à tirer de l'argent dans une banque en Chine et il n'y arrivait pas.
On venait d'arriver là.
On venait juste de prendre de passer la frontière avec le Vietnam.
Voilà, donc on arrive en Chine.
Vas-y. Donc Antoine fait plusieurs bureaux de banque pour essayer de tirer de l'argent. On n'avait pas du tout un yuan sur nous. Et il ressort tout dépité.
Et là, moi, je dis « Eh, mais papa, ça sert à rien d'aller tirer de l'argent, on en a déjà
!» Effectivement, ouais. On avait l'équivalent d'une trentaine d'euros quand même, ce qui était plutôt pas mal hein, pour démarrer.
C'était juste hallucinant. Moi, impossible de tirer un billet, faut déjà comprendre comment ça marche, même les distributeurs en Chine, ça fonctionne pas comme chez nous. Je sors pas un rond, mais quand je sors, finalement, on n'avait plus besoin d'argent parce que les gens voulaient se prendre en photo avec les enfants et il fallait donner de l'argent et c'est même pas la peine d'essayer de rendre l'argent. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte après qu'il faut surtout pas rendre l'argent parce que ça porte de malheur. En fait, c'est en donnant de l'argent, ils se portent chance, ils nous portent chance et bon bah tant mieux, hein.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'inattendu de Dieu. Depuis la semaine passée, nous découvrons cette famille, Antoine et Géraldine, qui sont partis avec leurs trois enfants faire le tour du monde en 12 mois et demi, parcourant 12 600 km à vélo. L'occasion de découvrir ces villes et villages, ce monde traversé à l'écoute des rencontres et également de cette nature. C'est ce qu'on va découvrir dès maintenant.
On cherchait un logement à Saint-Pétersbourg et puis donc via les réseaux d'accueil de cyclos, on avait essayé de trouver un logement. Et on s'était mis en relation avec ce jeune homme qui n'était pas sur Saint-Pétersbourg au moment où nous on y était. Et ben malgré cela, et comme il était sur Moscou et nous aussi en même temps, il nous a proposé de nous laisser les clés de son appart à Moscou. Donc on s'est retrouvés à Moscou, on a déjeuné ensemble, ça a duré une heure. Il nous a laissé les clés de son appart, nous a indiqué où ça se trouvait et voilà.
On cherchait de l'eau un soir chez des gens en Estonie et les gens finalement, après on leur a demandé s'ils connaissaient pas un coin où on pourrait planter la tente. Puis ils nous ont dit bah non, en fait on connaît pas de coin, mais on a une maison avec un sauna, avec en haut de la maison il y avait 5 lits qui étaient préparés avec 2 oreillers dans chaque lit, le luxe. Et des oreillers moelleux. Et pas des lits cailloux, des vrais lits et tout. Et des bonnes couvertures. Bah, le top, quoi, le truc. Bah, voilà, ça arrive comme ça. On sentait quand même qu'il y avait un petit quelque chose qui traînait au-dessus de nos têtes. Il y a comme quelqu'un qui était là avec nous en permanence pour nous trouver des bons plans. C'était pas mal. On l'a bien vécu, ça. En Allemagne, on nous a prêté une caravane pour la nuit. Parfois, les gens nous accueillaient, ils nous passaient la piscine. Ou un jet d'eau pour se doucher dehors. En Russie, c'est quelqu'un qu'on a un peu forcé la main pour qu'il nous accueille chez lui. On a senti qu'on poussait un peu quand même, parce qu'on avait repéré que son jardin, il était super. Il était au bord du Baïkal. C'était la première fois qu'on arrivait au bord du Baïkal. On a dit, nous, c'est là qu'on dort. C'est clair. C'est magique. Donc, on se comprenait pas bien. On l'a un peu, ouais, on a senti qu'on avait été un peu pushy. On l'a un peu bousculé. Mais on a passé une super soirée et lui, il était content comme tout, en fait. Une fois qu'il avait ouvert son jardin, il avait compris qu'il n'avait pas pris de risques inconsidérés et il nous a apporté son samovar là pour qu'on ait de l'eau chaude. Il a rapporté son gros manteau pour que madame ait pas froid la nuit. Et, enfin voilà, c'était une super soirée, super rencontre. Et surtout, le truc qu'on nous a donné partout, tout le temps, c'est des sourires incroyables. Des gens qui nous ont... Toujours ouvert leurs portes et partager avec nous le bonheur de vivre. Et ça, ça secoue. Chez nous, on n'a pas un sourire comme ça spontanément. Dans le métro à Paris, on ne trouve pas ça. C'est bizarre. Hein. Mais la nature aussi, elle est généreuse. Et en fait, il y a plein de trucs où, pour manger, bah, on trouvait sur le bord de la route. Là, c'est en Italie, il y avait des pêches. Les arbres, ils étaient à dispo. Les gens ne les ramassaient pas. Les enfants, ils ramassaient... Les enfants ramassaient des noisettes, ils se sont fait des séances d'épluchage de noisettes, il y avait des arbouses. Dans le nord de l'Europe, on n'a pas arrêté de manger des myrtilles, des framboises, des fraises des bois. En Finlande, c'est blindé de fraises des bois. Le vent est parfois très généreux avec nous, ça c'est en Mongolie. J'ai mis ma veste derrière avec des tuteurs pour profiter du vent et on a fait des records de vitesse avec le vent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la nature est généreuse, mais des fois, elle te rappelle que c'est quand même elle qui décide. Donc quand c'est de face, c'est un peu plus rude. Et puis, on a eu des couchers de soleil incroyables, des soirées superbes. On a pu profiter de super soirées au coin du feu, de cieux nocturnes. Ça, c'était en France, mais en Mongolie. Alors, amoureux des étoiles, prenez un billet d'avion pour la Mongolie. Il n'y a pas de pollution, lumineuse là-bas. On a vu des paysages incroyables. Et puis, on a fait plein de rencontres amusantes. Donc, on a vu des cigognes. On a vu des petites plantes carnivores. Ça, c'était en Lettonie.
En Estonie.
On a vu des serpents. On a vu un lama en Suède.
Tout seul.
En plein milieu d'un camp militaire, il y avait un lama.
Au beau milieu d'un camp militaire où nous avions... trouver de quoi dormir quand même et des carcasses de bombes, mais on n'a pas dormi sur les carcasses de bombes et il y avait un lama qui traînait. Le matin aussi, ça c'est, je suis désolé, vous allez croire que je fais une fixette, c'est peut-être un peu vrai, c'était au pied de l'éolienne, un joli petit chevreuil. On se promène avec Joseph le matin. Voilà, on a vu aussi des singes en Asie du Sud-Est, des grenouilles, enfin bref, des animaux en tout genre. On a pris le temps de s'émerveiller de la nature. Ça, c'était en Mongolie, des espèces de petites gerboises. Et nous, quand on faisait les articles du blog, et quand on vous envoyait des infos, il y avait plein de gens qui nous envoyaient des mails en nous disant « Ouais, bon, ok, c'est sympa, là, mais vous voulez pas nous dire la vraie vie, là? Vous voulez pas nous raconter les galères, aussi? Vous vivez vraiment dans le monde des bisounours, quoi? C'est pas vrai, quoi. Racontez-nous tout. » Et en fait, nous, on s'est rendu compte que, d'abord, un, le monde réellement dans lequel on a vécu, il était beau, il était sympa, il était généreux, et qu'on n'a pas eu trop de galères. Et deux, après, on s'est dit, mais ouais, c'est vrai. Peut-être qu'en fait, on vit un peu dans le monde des bisounours, parce qu'en fait, on vit aussi dans le monde dans lequel on se projette. Quand on était en Mongolie, et avant de passer en Russie, on a croisé d'autres cyclotouristes, un couple de Français, et ils ont fait à peu près le même chemin que nous sur la Sibérie, et ils ont pris le transsibérien pour rentrer sur Moscou. Et quelques temps plus tard, on est allé sur leur blog et on a vu le récit de leurs aventures en Sibérie et dans le Transsibérien. Et on s'est dit, c'est pas possible, ils n'ont pas vu la même chose que nous. Quand on lit leur récit, il y a des choses intéressantes, mais ils parlent des galères, on a mangé du mouton, ça c'est vrai qu'en Mongolie on mange que du mouton. Donc c'était pas très bon, dans le Transsibérien c'est hyper tassé, on a passé 4 jours dedans... On savait plus trop quoi faire. En fait, c'est long, 4 jours dans un train. Et nous, quand on se rappelle le Transsibérien et la Mongolie, on se dit, c'est magique. Bon, il y avait du mouton à bouffer, mais c'est pas grave. Après, on était content de manger autre chose. Puis on a vu des gens absolument incroyables, des paysages fabuleux. Et dans le Transsibérien, bon, c'est vrai que voilà, les couchettes, c'est un peu cliché. On a passé 15 jours les uns sur les autres. Pas beaucoup d'intimité, mais en fait, c'était incroyable de voir comme les gens acceptaient la rencontre et rentraient en communication, même avec nous, on avait beaucoup de mal à communiquer, et on a passé des moments super dans ce Transsibérien.
Moi, je vais quand même vous parler d'une petite aventure, une de nos petites galères. C'est pour montrer à quel point on était optimiste quand même. On n'avait pas bien préparé notre tracé ce jour-là, et il fallait absolument qu'on rejoigne Irkoutsk rapidement pour prendre le Transsibérien. Et on se rendait compte, quand on allait un peu sur Internet, que les trains se remplissaient très vite et on arrivait à la bonne période, en fait, où tout le monde voyage, parce que ça commençait à être les vacances en Russie. Donc, il fallait qu'on se dépêche. Et donc, on avait une journée pour faire 70 km, ce qui nous paraissait faisable, puisque, a priori, on allait longer L'Angara, qui est donc la rivière qui termine le Baïkal, en fait.
C'est le seul exutoire du Baïkal, donc c'est l'eau part du Baïkal et traverse Irkoutsk. Donc longer un fleuve, en général...
Ça devait être plat. Et puis le soir, quand on a regardé, on s'est vu que ça ne serait pas plat du tout, et même vraiment, vraiment pas plat, et que ça ne ferait que monter, descendre, sur 70 km. Je ne sais plus quel était le dénivelé, mais c'était juste impensable. On ne l'avait jamais fait, et on ne s'en sentait absolument pas capable. Mais bon, on était quand même motivés, on s'est levé de bonne heure, et on est parti. Assez vite, le vent s'est mis à souffler, mais dans le sens contraire. Donc ça a rajouté...
C'était plus drôle.
Et puis, on a commencé à sentir quelques gouttes. On s'est dit, et là tout le monde a commencé à râler, parce qu'il y a quand même des fois où on râle, hein, même en famille. Donc les enfants, ils râlaient.
On avait râlé, je ne me rappelle pas qu'on avait râlé.
Tu ne te rappelles pas? Donc les enfants, ils râlaient, on était mouillés, il y avait le vent, ça montait vraiment dur.
Et il n'y avait rien à voir, on était dans les forêts de pins, de sapins, et c'était...
Ouais. Sans intérêt. Mais bon, on s'est dit, on n'a qu'à faire du camion stop. Alors, du camion stop avec deux gros vélos, deux petits vélos et 5 personnes, c'est pas évident. Puis il n'y avait pas tellement de monde qui passait. Et puis finalement, il y a quand même quelqu'un qui s'est arrêté avec pile poil le camion qu'il fallait, un camion plateau, une double cabine, il y avait de la place pour tout le monde. Et il allait jusqu'à Irkoutsk.
Quand on avait cherché, on a quand même fait du stop pendant 20 km. Pendant 20 km, on pédalait, on ronchonnait. Et on se disait qu'il faudrait quand même bien qu'on trouve quelque chose. Je soupçonne les uns ou les autres d'avoir un peu prié en disant quand même, si tu m'écoutes, un camion plateau, c'est quand même pas compliqué à sortir.
Nous retrouvons l'inattendu de Dieu et Antoine et Géraldine pour la dernière partie de cette aventure familiale à vélo. Plus d'un an et demi à découvrir ces pays traversés en parcourant plus de 12 600 km à vélo. Pour être très précis, nous écoutons leur témoignage. Alors, comment cela a débuté avant de partir? Le matériel nécessaire, ce qu'il faut prendre pour aller sur les vélos? La réponse dès maintenant avec Géraldine et puis nous écouterons également Antoine pour le bilan de ce voyage.
Donc on s'est rendu compte assez vite qu'on n'avait pas besoin de grand-chose finalement et que de toute façon on ne pouvait pas porter énormément sur nos vélos. Donc voilà un peu le chantier chez nous avant le départ, chaque ligne étant le paquetage de chacun. Donc voilà, une fois que c'est mis sur les vélos, tout le monde portait, y compris les enfants. Combien à peu près? 110 kilos.
Au total, on avait une centaine de kilos de matériel. En plus, il y avait la nourriture et la flotte qui pouvait être alourdir pas mal, surtout quand il y avait des distances. Et voilà, chacun portait. Nous, on avait l'impression de partir avec pas grand-chose. Et tout le monde nous disait « Oh là là, mais comment vous avez fait pour partir un an avec si peu de choses ?» Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de grand-chose.
Donc voilà, vous avez vu la popote, voilà pour dormir, une bâche, 5 matelas, 5 duvets, voilà. Les enfants aussi jouent avec rien, voilà. On a dans notre maison, quand on a retrouvé notre maison, on a retrouvé des piles de jeux infernales, des piles de jouets dans tous les sens. On s'est dit, mais c'est pas possible, à quoi ça va nous servir tout ça? Et les enfants n'avaient rien, enfin, on avait très peu de choses, on avait un jeu de cartes, un jeu de Uno qu'on a sorti, même pas très souvent finalement. Et avec rien, donc ils faisaient des petites constructions. Là, c'était une petite maison pour les poupées. Là, c'était un mini-golf.
Un mini-golf, voilà. Avec une bille en terre trouvée et un bout de bois tordu. Et ça a fait séance mini-golf. Et des exemples comme ça, on en a à l'appel, en fait. Et Alban, je crois qu'elle avait trois poupées dans ses sacoches. Et trois petites poupées, et voilà. Et en fait, quatre, pardon. Précision. Qu'elle a eu à son anniversaire en cours de voyage.
On avait le sentiment de ne pas avoir beaucoup sur nous, mais on avait souvent bien plus que les gens qui nous accueillaient. Alors on a deux exemples en particulier à vous citer. Celui de... j'ai plus son nom.
Kongtom.
Donc ça c'est au Cambodge. Donc il y a encore quelques anciens qui parlent le français au Cambodge. Il se trouve que ce jour-là, on est arrivé dans ce village et on ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir. Il est venu à notre rencontre et il nous a invités à dormir chez lui. Mais quand je dis dormir chez lui, c'est dormir dans sa chambre. On a dormi dans sa chambre, juste à côté de lui, et de sa femme, et du pot de chambre. Donc voilà sa petite maison, en bambou, plancher en bambou, on voit à travers, ça ondule quand on marche. Voilà la chambre. Donc nous, on avait nos matelas autogonflants, nos draps, nos duvets, notre moustiquaire. Lui dormait sans moustiquaire, sur un tapis de feuilles de tiges de riz. Ils avaient juste un petit coussin pour se mettre sur la tête et c'est tout, rien. Et ils avaient 70 ans, quoi. Voilà. Pour se laver, c'est le puits qui est dans le jardin. Donc là, c'était chez lui. On a fait l'expérience en sarong avec Inès et Alban.
D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait plein de garçons qui me regardaient. Ils étaient venus voir ce que je faisais, comment j'arrivais à me doucher avec ça. Et j'ai fait un peu le spectacle de tout le village.
Et puis je pense qu'on ne devait pas être très doués aussi pour se laver comme eux le font.
Et puis aussi, même, ils m'ont emmené. Il y a des garçons, ils m'ont emmené en moto. Puis ils m'ont fait faire un tour. Ils sont allés au poulailler. Ils ont ramené le poulet. Puis ils sont revenus avec. Moi, j'avais le poulet dans les mains. Puis ils l'ont tué.
Voilà, donc encore des exemples où les gens. En Mongolie, on a vraiment pris une claque. On est tous un peu. Écolo-bobo, à trier ses déchets, à penser qu'on fait attention à tout, à la planète. Et en fait, en Mongolie, on a vraiment vu ce que c'était que de vivre avec très peu de choses. On a été accueillis dans une famille à deux reprises, à Oulan-Bator. Et c'est des gens qui vivent avec vraiment rien. Ils gaspillent rien, ils réutilisent tout. Ils vivent avec 40 litres d'eau pour 5 personnes par jour dans leur famille. Ils font leur pain eux-mêmes. On avait apporté du chocolat et qui était emballé dans des petits sachets avec des petites figurines dessus. Les petits sachets sont restés, ils ont été réutilisés pour faire des jeux avec. Tout était dans cet esprit de réutilisation. Alors là, on s'est dit, ok. On a une grande leçon à prendre de leur part sur comment vivre avec peu et en harmonie avec la nature. Et quand on dit qu'ils n'avaient pas grand-chose, voilà, eux, ils nous accueillaient dans leur yourte que vous avez vu tout à l'heure. On a dormi jusqu'à 11 dans cette yourte parce qu'on n'était pas les seuls à être accueillis chez eux. Il y avait aussi un gars de Malaisie qui était là en même temps que nous à un moment donné. Et donc, voilà, on déroule les nattes le soir, on les replie le matin. Peu, mais beaucoup. On s'est rendu compte aussi que moins on avait de matériel, plus spontanément les gens sont prêts à vous accueillir parce qu'ils n'ont pas de crainte de perdre quelque chose qu'ils n'ont pas. Et aussi, moins on a de soucis sur « Ah merde, faut que je répare la voiture, il y a la chaudière, qu'il y a ci, il y a le truc, il y a ça, putain, faut que j'appelle le plombier. » Faut... Non, donc on a beaucoup plus de temps pour s'occuper de soi et pour se recentrer sur l'humain. Mais nous, on s'est aussi pas mal recentré sur l'humain pendant tout le voyage et jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, quand on est rentré en France, eh ben, on a eu pas mal d'amis qui sont venus nous retrouver pour pédaler avec nous. Donc ça, c'est la famille Bourges, c'est des gens qu'on avait rencontrés au Laos. Et puis il se trouve qu'on est arrivé au même moment qu'eux dans la baie d'Along, donc on a refait un bout de voyage avec eux dans la baie d'Along. Et puis quand on est rentré, je pense qu'ils avaient été à peu près convaincus que le voyage en vélo c'était sympa. Eux, ils voyageaient sac à dos. Ils ont fait le tour du monde avec leurs 3 enfants qui avaient le même âge que les nôtres avec un sac à dos. Et donc ils sont venus nous retrouver en vélo, pédaler quelques jours. Ensuite c'est Pierre qui nous a retrouvés pour faire les 680 derniers kilomètres depuis Chalon-sur-Saône jusque nous ramener à la maison. C'est super. Donc Pierre, il nous a accompagnés au début, il nous a lancé le premier jour et il nous a aidés à rentrer sur les derniers jours. Puis on a d'autres amis qui sont venus nous retrouver pendant les derniers jours, qui sont arrivés, repartis. Et ça a été pour nous super de rentrer tranquillement et de reprendre pied tranquillement.
Donc pour apprendre, les enfants n'ont pas besoin de beaucoup non plus, finalement. On s'était renseigné sur les livres numériques, etc. D'abord, ça marchait pas bien. Et puis en plus, les enfants, ils n'avaient pas envie de livres numériques pendant le voyage. Donc ils avaient simplement des petits livrets d'exercices. Et c'était grandement suffisant parce que finalement, ce qu'il y avait à apprendre, c'était pas tant ce qu'il y avait dans les bouquins que ce qu'il y avait à voir autour de nous. Donc ils ont appris avec les autres. Donc là, c'était apprendre à faire des bouquets en Thaïlande. C'était là, on a fait la rencontre d'un entomologiste en Italie, donc il a pris le temps de montrer aux enfants pour faire des observations d'insectes. Là, c'est Joseph à la rencontre des petits singes en Thaïlande, je sais plus leur nom. On a fait aussi un peu de géographie, donc
un peu beaucoup.
Ouais. Mais notamment, voilà, dans le programme d'Inès, il y avait qu'est-ce que c'est qu'une zone portuaire, donc a eu l'occasion à plusieurs reprises de découvrir ce que c'était qu'une zone portuaire. On s'est aussi immergé dans le monde des Vikings quand on était en Suède. Donc Joseph a eu l'occasion de peser ce que c'était qu'une cotte de mailles.
Et c'est là qu'on a appris que les casques des Vikings n'avaient pas de cornes. Vraiment, pendant tout le périple, il y a quand même plein de moments. D'abord, quand on a du temps, on a plus le temps aussi d'observer les choses, de voir... ce qui se passe autour de nous et on a plus le temps de la réflexion et nous pendant tout le voyage on s'est réellement senti accompagnés. D'ailleurs tout le monde nous dit ah, mais c'est incroyable, vous avez pas eu de pépins, c'est incroyable, vous avez été en bonne santé, c'est incroyable ce que vous avez vu. Bah ouais, il y a un côté un peu incroyable et puis il y a un côté où on a vraiment le sentiment qu'on n'était pas que 5 à pédaler et que à chaque fois qu'il y avait vraiment des moments où ça pouvait, parce qu'il y a des moments où ça aurait pu vraiment virer à la grosse galère. La tempête de neige en Mongolie, 2 jours de plus de tempête comme ça, et on était vraiment en rade de flotte, on aurait trouvé d'autres solutions. Il se trouve, pour la petite histoire, qu'on a campé à un endroit et que juste derrière la colline, il y avait une yourte. Donc en fait, on n'aurait pas été en grosse galère, mais nous, on l'avait pas vu. Donc voilà, il y a plein de moments où ça aurait pu tourner à des choses moins drôles, mais à chaque fois, voilà, il y a le petit truc qui est arrivé au bon moment pour faire que le voyage continue avec le sourire.